À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science, friction. Science, friction, une émission d'Alain Battier de Jean Ibanez sur Divergence FM. Bonsoir. Bonjour. À vous tous. Alors Alain, on se retrouve ce soir pour parler de La Jetée.
La Jetée de Chris Marker.
Voilà.
Tout à fait.
Un film culte. Pendant des années, ce film était inaccessible. On ne pouvait pas le voir. Hein. Moi, je me rappelle que j'étais monté à Paris. On m'avait dit, il faut absolument que tu vois ce film. Et j'étais allé le voir à côté de Beaubourg, dans un des petits cinémas qui était à côté de Beaubourg. C'était un film qu'on ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, il est disponible en DVD. Mm-hmm. Il est accessible à tout le monde. Donc, hein. Mm-hmm. Mais pendant longtemps, pendant des années, c'était un film dont on parlait, que quelques-uns avaient vu, mais qui n'était pas visible. Alors... La Jetée de Chris Marker, c'est un film culte. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un court-métrage.
Oui, ça dure 28 minutes, je crois. Un peu moins d'une demi-heure, en tout cas. C'est effectivement un court-métrage et c'est un film très singulier, puisqu'il est fait d'images fixes, de photos, en fait. Sauf pendant 5 secondes où on a un passage légèrement animé, on va dire.
Ouais.
Voilà, sinon, c'est que des photos... qui se suivent, qui sont montés. Enfin, il peut y avoir aussi des mouvements dans l'image. Hein. Par exemple, le début du film commence par un espèce de zoom arrière sur la jetée à Orly, où il peut y avoir un mouvement vertical, enfin, ce genre de mouvement. Mais en général, c'est quand même que des images vraiment fixes qui ne bougent pas. Quoi.
Une seule image à l'intérieur du film.
Oui, il y a 5 secondes de clignement d'œil d'Hélène Chatelain qui se réveille.
Donc bon, peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, le film lui-même est un film très 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 particulier. On peut dire que c'est un film expérimental.
A priori, Chris Marker est sans doute le premier à avoir réalisé ce genre d'objet. Enfin, la même année, Jan Čech avait réalisé aussi un film comme ça avec des images fixes. Mais je peux pas dire si c'était vraiment en 62, pareil. Mais est-ce que c'était avant ou après? En tous les cas, c'est... Je pense que ni l'un ni l'autre ne connaissait le film.
Ignorait ce qu'avait fait l'autre.
Ouais, je pense.
En tout cas, c'est intéressant de voir que à la même époque, des photographes, des cinéastes,
au moins deux en tout cas,
au moins deux ont pratiqué ce type de montage à partir d'images fixes et une construction, un récit qui est tout à fait prenant, qui est extrêmement efficace. Hein. Ce qu'on peut dire en tout cas de La Jetée de Chris Marker, c'est l'efficacité. On est tout de suite pris par l'intrigue et par ce que nous raconte le film.
Oui, par la voix off en l'occurrence. Parce que il y a un narrateur, hein, on ne sait pas qui
est,
d'où il vient, unique, voilà, qui raconte l'histoire de cet homme qui a été marqué par une image quand il était gamin. C'est tout le thème du film, cette image qui l'obsède, cette image de cette femme au bout de la jetée à Orly et la mort d'un homme qui lui succède en quelque sorte.
Oui,
qui se superpose à cette image-là.
Ouais, la formule du début du film, c'est ceci l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance.
C'est ça. Ah. Ouais, et tout le film est construit à partir de cette image.
Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va avoir un film de science-fiction, parce que c'est vraiment de la science-fiction.
Mmh, hein. Une question de voyage dans le temps, oui, forcément.
On voyage dans le temps. Hein, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'une image d'enfance, ça renvoie aussi à la question de l'enfance, et à des images qui nous marquent quand on est enfant, et qui vont déterminer ensuite toutes les autres images. Alors ce que nous raconte un petit peu le film, c'est que, si j'ai bien compris, hein, mais tu me reprends Alain si je me perds, mais si j'ai bien compris, cet enfant que le personnage, le héros, était, mm-hmm. hein, venait avec ses parents sur cette jetée d'Orly.
Oui, oui, comme beaucoup de monde à l'époque, c'était un des lieux très très visités.
Un lieu de promenade.
Ah oui, mais c'était plus visité que la Tour Eiffel à l'époque. C'était vraiment un lieu de tourisme où beaucoup de gens allaient voir les avions décoller d'Orly.
Ouais.
C'était quelque chose d'assez courant, quoi.
D'ailleurs, l'aéroport est assez beau, si je ne me trompe pas. Hein,
oui, oui, hein, c'est, à l'époque,
c'est une construction c'est
pour
assez
ça étonnante. Que, effectivement, il attire aussi beaucoup de monde. Quoi.
Ouais. Alors, voilà un film avec des images fixes, un film en noir et blanc, un film qui travaille sur le temps, sur la mémoire. Ça raconte quoi? Parce que là, voilà, l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfant, ça raconte quoi exactement? Comment on pourrait résumer l'histoire? C'est difficile à résumer cette histoire.
Bah, c'est un peu un récit, on va dire, post-apo, puisque on suit l'histoire d'un homme qui a survécu à une espèce de troisième guerre mondiale où les gens survivent dans les souterrains, là, en l'occurrence dans les souterrains de Chaillot.
Dans des
catacombes, parce que tout le reste de la planète apparemment est irradié, tout a été détruit. Et donc, c'est ce que les vainqueurs de cette guerre utilisent donc les vaincus pour réaliser des expériences pour essayer de sortir de la situation dans laquelle ils sont, qui est une situation désespérée. C'est un peu la fin de l'humanité. Et il n'y a plus aucun espoir dehors, dans l'espace. Tout a été éradiqué. Donc la seule solution, c'est le temps. Essayer d'établir un lien avec le temps passé ou futur, d'où ils pourraient tirer des ressources, des vivres, des médicaments, de l'énergie, etc. Donc voilà, donc c'est les vainqueurs mènent des expériences donc, sur les vaincus et la plupart, en fait, meurent ou deviennent fous. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans un autre temps qui n'est pas le leur.
Alors, en effet, bon, ça, c'est les conséquences d'expérience. Mais ce qu'il faut dire à nos auditeurs qui n'ont pas vu la jetée ou qui peut-être seraient intéressés par le film, c'est qu'il ne s'agit pas de revenir dans le passé pour modifier le temps présent.
Non, pas du tout.
Hein, il ne s'agit pas comme dans Barjavel, le voyageur, si je ne me trompe pas, c'était...
Voyageur imprudent.
Imprudent, où il cherche à revenir dans le passé en
pour tuer Napoléon.
Pour tuer Napoléon et modifier le temps présent. Et on sait que Barjavel, le voyageur imprudent, tue son ancêtre et disparaît au moment même où son ancêtre meurt.
Enfin, il disparaît ou il disparaît pas. La conclusion, c'est être et ne pas être, telle est la question.
Oui.
Parce que s'il a tué son ancêtre avant qu'il ait pris femme, lui, il n'a pas pu exister, donc il n'a pas pu tuer son ancêtre. Et s'il n'a pas tué son ancêtre, il a existé, donc il a tué son ancêtre, etc. Enfin,
c'est l'espèce de... On est dans les paradoxes temporels. Et,
là, ce n'est pas du tout le cas, non.
Ce avec quoi s'est amusé, si je ne me trompe pas, Spielberg, avec Retour vers le futur, de manière très enfantine. Hein, mais assez drôle, d'ailleurs, au passage. Alors, si on revient sur cette histoire, donc, de la jetée. Ce personnage qui est le personnage central et le héros de la jetée, en fait, c'est un personnage qui est marqué par une histoire d'enfance et il va être choisi parmi d'autres parce qu'il est capable, il serait capable de pouvoir voyager dans le temps et que son esprit pourrait résister.
À cause de cette image, parce qu'il est obsédé par cette image, qu'il a cette image du passé autour duquel il peut tout reconstruire. Et ça lui permettrait effectivement de résister au choc, de renaître une deuxième fois, de renaître une deuxième fois dans cette époque qu'il a connue alors qu'il était enfant, et là d'y revenir adulte.
Alors, le film fonctionne de manière très, comment on pourrait dire, ça joue un petit peu sur l'hypnose, moi, je trouve. Hein. Il y a, à travers des images fixes et ces expériences qui sont répétées, tout d'un coup, petit à petit, on va capter donc, l'attention du spectateur et on va lui faire vivre, en quelque sorte, ses expériences et le projeter lui-même dans le temps.
Oui, mais au début, c'est un peu... Enfin, au début, d'abord, il n'y arrive pas. Il dit que c'est juste un arrachement du temps, mais il ne se passe rien. Et après, ce sont des images qui arrivent un peu en désordre. Tu vois, des vrais oiseaux, une vraie chambre, des vrais chats, etc. Ce qu'il raconte. Et puis, une femme, il ne sait pas qui c'est. Puis, c'est la femme qu'il a vue, effectivement, au bout de la jetée. Et à partir de là, il commence à se focaliser sur cette femme. Dans les voyages suivants, il ne cessera de la rencontrer.
Donc, il retourne dans le passé. La question qui se pose, en fait, que nous, on peut se poser a posteriori, parce que quand on regarde le film, on on est dans l'identification avec le personnage. Hein. On part dans le passé, on rencontre cette femme en question. La question qu'on peut se poser, quelle est la nature du personnage qu'on appelle l'homme, d'ailleurs, il n'a pas de nom. Hein. On l'appelle l'homme qui est envoyé dans le passé. Est-ce qu'il voyage matériellement ou uniquement par esprit?
Ça, c'est vrai que c'est ambigu dans le film. On ne sait pas trop parce qu'il y a toujours ces personnages qui sont autour de lui, qui le regardent. Et même quand il est dans le passé, on entend ces voix allemandes qui parlent par-dessus. Comment je pourrais dire, il est dans le temps, donc dans les années 60, et on entend encore les voix de ces bourreaux qui chuchotent. Comme s'ils continuaient effectivement à le regarder. Ils étaient toujours en contact avec lui. Donc on se demande s'il n'est pas là à la fois dans le futur, dans cette espèce de hamac là, où il a avec cette espèce de lunettes blanches qui lui occulte le regard, et à la fois dans le passé.
Dans le passé. Donc il y a cette espèce d'indétermination qui est extrêmement intéressante. Hein, parce que bon, ça nous renvoie avec toutes ces théories de corps spirituel ou d'esprit, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Parce qu'il y a une dimension un peu fantomatique quand même là-dessus.
Ouais, hein. Et pourtant, à la fin il est vraiment dans le passé. Il n'y a pas de corps allongé.
Oui.
C'est ceux du futur, justement, le futur du futur, si je puis dire,
voilà.
Qui l'ont renvoyé à sa demande, dans le passé de son enfance.
Alors... Si on suit un petit peu son histoire, en fait, l'histoire de cet homme, ce qu'il veut, lui, c'est retrouver cette femme qu'il a vue quand il était enfant, dans un contexte extrêmement intense, émotionnellement. Il veut la revoir parce qu'il sait que c'est elle qui a, en quelque sorte, la clé de son existence.
Je sais pas, explique-toi.
S'il veut absolument revoir cette femme, c'est que cette femme représente pour lui ce qui lui permet en quelque sorte de vivre de manière heureuse dans le temps présent.
Ouais,
elle représente pour lui la possibilité, en tout cas, de se raccrocher, de se réajuster avec le temps en fait passé, le temps passé, mais qui était pour lui un temps heureux.
Ouais, okay.
Et donc, en quelque sorte, la retrouver, c'est d'une certaine manière vivre dans cet espace-temps, qui est un espace dans lequel l'humanité avait encore la possibilité.
Ouais, l'humanité d'avant-guerre.
Voilà, la possibilité d'être heureuse.
Ouais. Hein.
Donc, on voit que dans le film... Il y a ces expériences que font ces personnages qui parlent en allemand. Alors, je pense qu'ils viennent jouer ici, en tout cas Chris Marker joue ici avec notre mémoire des expériences nazies. Parce que c'est forcément...
Oui, le film date de 62, c'est encore proche.
Oui, ça fait pas très longtemps que la Deuxième Guerre mondiale est terminée et qu'on a encore en mémoire donc, les camps de concentration, les expériences de Mengele, etc. Donc, là encore, Chris Marker va jouer avec la mémoire.
Donc c'est une espèce de stéréotype, plutôt. Là.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'était un peu la critique qui a été faite à Chris Marker, parce que, bon, c'est un choix, il parle en français, et puis tout d'un coup, ses bourreaux parlent en allemand. Donc, on est là dans un stéréotype. Mais malgré tout, ça vient jouer avec l'histoire et avec la mémoire.
Oui, tout à fait. Hein.
Donc, en fait, quand ces personnages... qui l'envoie dans le passé, le temps dans lequel il se trouve, c'est un temps qu'il n'a pas encore vécu. Hein, quand il rencontre pour la première fois cette femme qu'il a vue quand il était enfant sur la jetée, tout l'espace-temps qui va être ouvert est un nouvel espace-temps, en quelque sorte.
Ah,
parce qu'il n'a jamais rencontré cette femme, il ne sait pas qui c'est.
Non, il l'a juste aperçu, gamin, effectivement... Et au même moment, il a quasiment aperçu aussi la mort d'un homme, et dont il ne sait rien, sauf à la fin, où il comprend de quoi il s'agit.
Oui, et qui est cet homme qui meurt
aussi. Qui meurt, oui. Hein.
Thank you.
Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré eux, ces tortionnaires, c'est pas ce qui est recherché, il réussit donc à rencontrer cette personne qu'il voulait rencontrer, mais qu'il avait, en quelque sorte, qu'il pouvait pas rencontrer parce qu'il vivait pas dans le même espace-temps qu'elle. Mm-hmm. Il était enfant et elle était adulte. Mm-hmm. Et donc, il va arriver en tant qu'adulte dans l'espace-temps de cette femme qu'il recherche, et il va la revoir à de nombreuses reprises, ouais, et tisser des liens. Mmh. En fait, en quelque sorte, ce nouvel espace-temps qui est pour lui, en quelque sorte, un espace-temps qui serait hors temps, mmh. Comme un espace-temps du bonheur, comme peut être le bonheur. C'est un temps qui est suspendu, en quelque sorte, le temps du bonheur. En fait, il va être créé par ce retour dans le passé. Mmh. Donc, ce qui est intéressant ici avec la science-fiction, c'est qu'elle nous permet d'ouvrir un espace qui n'existait pas,
ouais.
Qui n'existait pas dans le passé, dans le présent, mais qui, en quelque sorte, n'existait pas encore dans le futur. Mm-hmm. Donc, c'est là, à mon avis, le génie, entre autres, du film de Chris Marker, c'est qu'il ouvre un espace qui est un nouvel espace. On ne voyage pas simplement dans le temps, on crée des espaces-temps nouveaux.
Ouais.
Et c'est ça, en fait.
Mais dans le film, en plus, ce sont du pur présent, puisque le personnage ne cesse de répéter qu'ils sont vraiment dans le moment même. Ils jouissent de l'instant qu'ils vivent à chaque instant. Enfin, je me répète.
Mais... Oui, non, mais c'est...
Et donc, ils sont dans une espèce de... Dans un pur présent, quoi.
Hein. Ouais.
Et il n'y a qu'un moment où ça décroche, c'est quand ils regardent cette espèce de coupe de séquoia, tu vois, où ils s'entendent dire, malgré lui, « Moi, je viens de là,
de
en, pointant, en pointant un point qui est à l'extérieur de la coupe de l'arbre. Ouais. »
Ouais. Un temps qui n'existait pas encore.
Un temps qui n'existe pas encore, enfin, en tous les cas, pour sa compagne. Mais lui, il l'a vécu, lui.
Oui, qui existe en lui, mais qui n'existe pas pour elle.
Pour tous les autres.
Pour tous les autres. Mm. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est qu'en fait, ce moment qui est créé, cet espace-temps qui est créé, qui est l'espace-temps aussi de la rencontre, etc., etc., il est un hors-temps dans le temps et qui permet, en quelque sorte, à ce personnage de pouvoir s'évader par rapport au milieu dans lequel il est, hein, mais aussi s'évader à la fois du futur et du passé.
Mm-hmm. Hein.
Alors moi le problème que je trouve que pose le film, c'est que en fait quand il demande de repartir dans le passé, ouais. Quand il a le choix, parce que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que en fait ce personnage de l'homme qui est marqué par une image d'enfance, en fait, une fois qu'il a réussi à voyager dans le passé et à résister
au choc
spatio-temporel, les hommes qui le manipulent vont décident de
l'envoyer dans le futur.
De l'envoyer dans le futur.
Mm-hmm. Hein.
Et là, il va rencontrer les hommes du futur, mm-hmm. qui vont lui donner la possibilité de sauver l'humanité, en quelque sorte, en faisant passer une centrale.
C'est ça, une centrale énergie qui permettrait de relancer toute l'industrie.
Ouais. Bon, c'est un petit peu, bon, c'est la science-fiction.
Oui.
Et quand ces hommes du futur
le
ramènent en quelque sorte dans le quand il revient dans le passé, quand il revient en fait
dans son présent,
en fait les ceux qu'il manipule, les chefs du camp, décident de le tuer.
Oui, ils vont l'éliminer. Ouais.
Voilà,
c'est lui qui va être éliminé à un moment ou à un autre. Quoi.
Voilà.
Qu'il a accompli sa mission et que donc il ne sert plus à rien.
Il ne sert plus à rien, il va être rejeté.
Être éliminé. Ouais. Ah. Et donc les gens du futur
vont le voir. Les gens du futur vont le voir.
Le contacter.
Parce qu'eux voyagent très facilement dans le temps. Mm-hmm. Ils le contactent pour le sauver.
Tout à fait.
Et en fait, lui dire de les rejoindre.
Voilà, de revenir dans le futur.
Dans le futur.
Du futur.
Voilà. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, il ne veut pas.
Non.
Il ne veut pas ce futur.
Non, il veut retourner vers cette femme.
Il veut retourner vers cette femme, ce que représente cette femme comme tant de bonheur qu'il a pu vivre dans ce hors-temps qui lui a été ouvert, en fait.
Mm-hmm.
Qui a été ouvert, c'est pas ça qu'ils ont voulu, mais c'est ce qui s'est produit.
Mm-hmm.
Donc, dans ce hors-temps qu'a pu représenter cette fiction, si l'on peut dire, parce que c'est vraiment quelque chose de réel tel que c'est présenté dans le film, en quelque sorte, c'est ce temps-là qui est, pour le personnage central, un temps hors temps du bonheur.
Oui.
Hein. Et en effet, où on peut vivre le temps de manière la plus intense possible et sans être ni dans le dans le passé ni dans le futur.
Donc,
voilà, ce qui est intéressant, c'est que les hommes du futur lui donnent le choix. Mm-hmm. Il a la possibilité de partir dans le futur ou de choisir un autre temps. Et lui, ce qu'il va choisir, c'est non pas le futur, où il serait complètement protégé, en quelque sorte, mais un passé dans lequel il y a la possibilité...
Il y a la menace de la guerre.
La menace de la guerre, mm-hmm. et de la mort. Donc.
Mm-hmm. Tout à fait.
Donc il y a ça dans le film qui est quand même extrêmement important. Et donc, on voit bien que l'histoire nous conduit vers cette image de l'enfant, ce qu'il voit sur la jetée, mm-hmm. et qu'il ne comprend pas.
Hein? L'enfant. L'enfant ne comprend pas.
Ne comprend pas.
Mais lui, l'homme, là, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre de quoi il s'agissait.
Parce que quand il choisit de revenir dans le passé, en fait, il se retrouve sur la jetée. Mm-hmm. Au moment de son quand il était enfant et qu'il voit cette femme,
c'est ça.
Et qu'il voit non seulement cette femme, mais aussi cet homme qui meurt. Et cet homme qui meurt,
c'est lui qui est tué à ce moment-là.
Qui est tué à ce moment-là par un de ses hommes.
Un de ses bourreaux.
Un de ses bourreaux.
Il a suivi, ouais.
Voilà. Donc tout d'un coup, il va assister
à sa
propre mort. Il va comprendre qu'en fait, l'enfant qu'il était assiste à sa propre mort.
C'est ça.
Ce qui est toujours assez étonnant, c'est que dans les fantasmes les plus intenses, les plus profonds qu'il puisse y avoir, nous dit Freud, il y a l'instant de la scène primitive.
Ouais.
La scène primitive, c'est ce moment où, en fait, nos parents nous ont conçus.
Mmh.
Qui est en effet quelque chose qui n'est pas simplement physique, mécanique, mais qui est aussi de l'ordre du désir, parce que les désirs qui ont pu traverser nos parents et qui les ont amenés à nous concevoir. Et en fait, ce que dit Freud, c'est que cette scène primitive, en quelque sorte, c'est quelque chose qui nous travaille, parce que en effet, personne n'a envie de penser, d'imaginer la chose. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous travaille parce que c'est ce moment, ou en tout cas cet espace-temps dans lequel nous avons été conçus.
Mmh.
Et donc, en quelque sorte, cette scène primitive qui nous travaille, auquel qu'on ne veut surtout pas imaginer, mais en même temps qui nous travaille parce que c'est ce qui nous concerne le plus intimement, en fait, cette scène primitive, en quelque sorte, Chris Marker va
la renverser.
C'est pas l'instant de la conception.
C'est l'instant de la mort.
C'est l'instant de la mort. L'instant le plus important, ce qui nous est le dérobé de la manière peut-être la plus intime, nous laisserait penser Chris Marker, c'est la mort.
Ce qui est impensable aussi.
Oui.
C'est parfaitement impensable. On ne peut pas penser sa propre mort, c'est difficile. Et là, alors que lui, il en a une connaissance, mais une connaissance qui reste insue jusqu'à ce moment-là, quoi.
D'accord.
Je sais pas si...
Oui, oui.
Donc c'est assez étrange ce type. Enfin, il sait qu'il va, il sait quand il va mourir, mais ça n'arrive jamais à sa conscience qu'au moment où il meurt.
Alors là, en même temps, on a donc une réflexion très existentielle sur la vie, sur la mort, etc., mais aussi sur les images.
Oui.
Parce que Chris Marker, c'est un photographe.
C'est un photographe,
mais aussi un cinéaste, mais aussi un poète.
Mmh.
Il est tout ça à la fois.
Mmh.
Et à travers ce film, à travers en effet cette image qui a marqué donc ce personnage qui traverse le temps, en fait, ce dont il parle, c'est de lui-même.
Mmh, ouais, peut-être. Développe. Parce qu'il parle de lui-même.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que lui-même, il réfléchit
sur les images.
Il réfléchit sur les images.
Oui, ok, d'accord.
Il réfléchit sur les images.
C'est sûr.
Et
sur leur impact, et sur leur rapport avec la mémoire, leur rapport avec la subjectivité, et leur rapport avec l'histoire. C'est effectivement tout ce qui va traverser un peu tout son cinéma, hein, que ce soit Le Fond de l'air est rouge, ou Sans soleil, ou même Chat perché, enfin des films comme ça, où l'image est toujours interrogée en fonction de la mémoire individuelle et d'une mémoire collective qui est l'histoire. Il y a toujours une espèce de double rapport, hein, qui se joue chez Chris Marker.
Avec cette idée que c'est toujours politique avec Chris Marker.
Ah, oui, essentiellement.
Toujours politique.
Il était quand même assez proche du PCF. Il a écrit pour la revue Esprit aussi, qui était quand même assez proche à l'époque aussi du PCF. Et il a beaucoup travaillé pour Peuple et Culture ou Travail et Culture. Donc il a toujours été assez engagé, quoi. Ça, c'est clair. Et même pas mal de films, il a réalisé des films sur la Chine, des films sur Cuba, sur l'Union soviétique. Enfin, Et la Corée même. Hein, il a même fait un film sur la Corée. Et même une série de photos, hein, un bouquin qui s'appelait Coréenne. Hein, d'ailleurs, qu'il qualifiait comme film fait à partir d'images fixes. Alors que c'est un livre. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que Chris Marker se joue un peu des genres. Quoi. Il est toujours en train de brouiller les frontières entre les différentes façons de travailler, quoi, que ce soit la photo, la poésie ou le cinéma.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, Alain. Merci, puis à merci. Bientôt.
À bientôt.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.